France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Moins d'argent pour vos travaux de rénovation. Le gouvernement serre encore la vis de MaPrimeRénov. Tout cela pour faire des économies dans le viseur, l'isolation des murs par exemple. Explication à suivre. Un plan pour protéger les enfants des écrans. Il est promis depuis des mois par le gouvernement. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
Mais vous nous apprenez qu'il est mis en pause.
Oui, un plan suspendu par l'Élysée sur les dangers des écrans. Alors que selon un sondage commandé par Matignon, une large majorité de Français souhaitent des mesures de régulation.
A tout de suite pour vos révélations. Nous irons également dans l'une des communes qui en cet automne 2025 augmente. La taxe foncière, nous serons dans le Pas-de-Calais. Après le suicide d'une directrice d'école lundi dans le Cantal, victime de harcèlement en raison de son homosexualité, l'un de ses amis, auteur de bande dessinée, Christophe Tardieu, sera notre invité. Il a raconté cette histoire, ce harcèlement, dans un livre paru au printemps. À partir de 13h30, pourquoi les salles de sport ont-elles autant de succès chez nos jeunes ? C'est l'heure de renouveler les abonnements. Ils sont près de 20% des 18-24 ans à être habitués. Question de corps et de mental. 01 45 24 7000 si c'est votre cas ou celui de vos enfants. 13h50, c'est la France. Faut-il changer la devise du Panthéon pour faire davantage de place aux femmes ? Ce sera avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Juste avant 14h, c'est une chanson. Le tromboniste de jazz Robinson Coury demande Riverman à Frédéric Pommier. Sans oublier dans une vingtaine de minutes, bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Jérôme.
Les sorties cinéma de ce mercredi.
J'ai un vrai coup de cœur pour Chronique d'Haïfa. Je vous parlerai aussi de Fils 2 et de La Voix du Serpent.
À tout de suite. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est un casse-tête pour les artisans du secteur. Les critères pour bénéficier d'aide de l'État pour rénover son logement ne cessent de changer ces derniers mois. Trop de demandes, trop cher. Le guichet MaPrimeRénov est même suspendu depuis le mois de juin. Il va reprendre du service à partir du 1er octobre, mais avec des conditions encore plus strictes. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes procuré le texte que s'apprête à publier le gouvernement. Certaines rénovations ne seront quasiment plus aidées par l'État. Par exemple, l'isolation des murs.
Oui, c'est une surprise de plus que les acteurs du secteur découvrent depuis quelques heures. Exit désormais les aides pour l'isolation des murs intérieur et extérieur, cette isolation, dans le cadre des rénovations par geste simple. C'était pourtant l'un des premiers postes de travaux demandés. Seule l'isolation des combles et des sols reste subventionnée. Terminée aussi les aides pour l'installation de systèmes de chauffage par biomasse, à l'exception des poêles à bois. Les pompes à chaleur restent, elles, éligibles. En réalité, tout cela devait disparaître très prochainement. La ministre du Logement, dans son bras de fer avec Matignon, a sauvé ce volet de subventions sur les rénovations dites par monogeste, explique-t-on dans l'entourage de Valérie Létard. Des critères qui font malgré tout bondir aujourd'hui les artisans de la CAPEB. On sauve peut-être ces subventions, mais il n'y a presque plus rien dedans, réagit son président aujourd'hui. Quant aux rénovations dites d'ampleur qui cumulent plusieurs types de travaux, elles seront bien limitées aux ménages très modestes, avec un reste à charge doublé et un plafond de 13 000 dossiers à ne pas dépasser d'ici la fin de l'année. On est vraiment en train de casser un outil qui était enfin en train de marcher, soupire un acteur de la rénovation globale. Avec ce décret publié in extremis, on évite malgré tout la fermeture totale de MaPrimeRénov en pleine instabilité politique. On donne de la visibilité aux ménages, se défend le ministre du Logement à la mi-journée. On est face à des enjeux budgétaires qui nous dépassent.
Merci Claire Chaudière. Le gouvernement de François Bayrou réunit ce matin pour ce qui pourrait être son dernier conseil des ministres avant le vote sur la confiance lundi prochain à l'Assemblée nationale. Le président de la République Emmanuel Macron a appelé les ministres à la mobilisation autour du Premier ministre. Les agriculteurs vont être concernés par cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Elle condamne l'État à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides. La Cour reconnaît un préjudice écologique qui résulte selon elle de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Toutes les autorisations déjà délivrées de pesticides devront être réexaminées. Satisfaction des associations de défense de l'environnement qui menaient cette action en justice. Toujours au rayon agricole, la bonne nouvelle pour les consommateurs, puisqu'on parle prix, c'est la baisse continue du cours du blé ces derniers mois. Car les Français restent extrêmement sensibles au prix. Le 14e baromètre Cofidis du pouvoir d'achat des Français, que vous dévoile France Inter, le confirme. Pour 4 Français sur 10, le pouvoir d'achat reste en tête des préoccupations préoccupation, même si cette proportion est en baisse. Produit emblématique, et on en revient au blé, la baguette, proposée à moins de 30 centimes dans plusieurs enseignes. Lidl, Aldi, Leclerc, la guerre fait rage. Reportage en région parisienne, Mariam El Kurdi.
Panier de course en main, Karima, employée de la SNCF, a du mal à accepter la hausse de certains prix.
Moi, je paye la baguette 1,20€, quoi. Vous vous rendez compte, 1,20€, c'est très cher.
Le pain à 1,20€, un produit devenu inaccessible pour Silla, salarié de la restauration.
Je trouve qu'en ce moment, on n'arrive pas à s'en sortir, sincèrement.
Dans ce supermarché de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, il vient comme beaucoup pour la baguette à 29 centimes d'euros.
Boulangerie, c'est une autre monde pour moi. C'est pas donné, on n'a pas les choix.
Sabrina, retraitée, a elle aussi fait les calculs.
Ça fait combien par jour? Ça finit très vite le pain. J'achète plusieurs baguettes, je mets en sac congélation et j'ai du pain tout le temps. Et c'est beaucoup moins cher, l'avantage.
Pour Dominique, ce sera la baguette à 75 centimes aujourd'hui.
Je suis contre le pain en général qui n'est pas acheté chez un artisan, parce que c'est la qualité avant tout. Là, je fais une exception, mais je ne prends pas celle de 29 centimes. Je prends quand même celle où il y a une traçabilité. Ici, il y a écrit « blé 100% français en culture raisonnée pour un meilleur respect de l'environnement », alors que l'autre, il y a marqué « baguette » et il n'y a rien d'écrit sur la fabrication. Il n'y a même pas marqué « blé ».
La main d'œuvre fait beaucoup la différence. En boulangerie, elle représente 40% des coûts de production. Si les artisans fabriquent eux-mêmes la baguette en grande distribution, le processus s'est industrialisé.
Maria Melkurdi, elle aussi pèse lourd dans les budgets en cette rentrée. La taxe foncière, elle vient d'arriver dans les boîtes aux lettres. Pour ceux qui ne sont pas mensualisés, pour eux, ce sera à partir du 20 septembre. Seuls 12% des communes ont choisi de l'augmenter cette année et souvent des communes plus pauvres que les autres. Sochaux dans le Doubs, Gandrange en Moselle et dans le Pas-de-Calais, celle de Leusangoël et de Meurchin. Plus de 26% de hausse à Meurchin où s'est rendue Vanessa Lamar.
Pour ces Meurchinois, l'addition était déjà bien salée avant l'augmentation.
1 225 €, je crois, comme ça. On n'a pas le choix.
680, il me semble.
Ça va faire mal.
Le maire Frédéric Alloy explique avoir réduit le nombre d'adjoints pour faire baisser la masse salariale et avoir été très rigoureux dans sa gestion municipale. Mais la baisse de la dotation de solidarité de 900 000 euros a plombé son budget.
Soit nous devions fermer des services. Et on sait très bien effectivement que le service public est un maillon essentiel pour notre population. Soit, effectivement, vous augmentez les recettes. Alors, effectivement, ce n'est jamais un choix positif, surtout à un an d'une élection municipale. Mais ce levier fiscal va permettre de retrouver de l'autonomie.
Pour l'opposition, en campagne pour les prochaines municipales, le maire aurait dû anticiper la baisse de dotation afin d'éviter cette augmentation brutale. Cathy Vasilikoff, conseillère municipale, future candidate.
Déjà diminuer la charge du personnel. Pour une petite commune comme ça, on a plus de 70 agents et il y avait possibilité de réduire certains fonctionnements, on va dire. Peut-être augmenter quand même un peu, mais chaque année, quoi.
Le maire de Meurchin ne dit pas encore s'il sera candidat aux prochaines élections municipales.
Reportage ICI Nord. Protéger nos enfants des écrans. C'était en avril 2024 la conclusion d'une commission d'experts dans un rapport remis à Emmanuel Macron. Cette commission a alerté sur l'urgence sanitaire et demandé un plan d'action. Le président de la République donnait alors un mois à son gouvernement pour prendre des mesures. Un an et demi après, toujours rien. Et on comprend pourquoi, grâce à vous, Marie Dupin, cellule investigation de Radio France, vous nous révélez, Marie, que ce plan est en fait gelé. Il a été mis en pause par les équipes d'Emmanuel Macron.
Eh oui, effectivement. La plupart des préconisations qu'avaient fait les experts en avril 2024 sont restées jusqu'à présent lettres mortes. Mais selon nos informations, en avril dernier, en réunion interministérielle, il a été décidé de lancer un grand plan d'action avec comme première étape une campagne de sensibilisation du grand public. Dans la foulée, Matignon commande un sondage que nous dévoilons aujourd'hui qui montre que 7 Français sur 10 veulent une interdiction des écrans pour les moins de 6 ans, par exemple. Bref, tout était sur les rails jusqu'à ce que, selon nos informations, l'Élysée reprenne la main sur le dossier et depuis plus rien ou presque. Et au sein des administrations et des ministères qui s'étaient mis au travail, c'est l'incompréhension sur les raisons de ce blocage.
Alors, est-ce qu'on a tout de même quelques explications? Est-ce que ce sont les liens, par exemple, entre certains experts sollicités et les industries de la tech qui pourraient poser problème?
Ce qui est sûr, c'est que ce blocage intervient
parisien alors que l'industrie de la tech fait pression pour influencer la décision publique. Ça, on l'a documenté en juin dans une enquête de la cellule investigation. Nous avons par exemple démontré les liens d'intérêt entre la tech et certains chercheurs qui poussaient au sein de la commission d'experts pour freiner les mesures de régulation. Nous avons aussi prouvé que l'Élysée n'a pas publié les déclarations publiques d'intérêt de ces chercheurs, contrairement à ce que veut la réglementation. Et c'est tout ce contexte qui inquiète les professionnels de santé, qui évoque une urgence sanitaire et qui se demande si des intérêts financiers ne sont pas en train de primer sur la santé des enfants.
Enquête et information signée Marie Dupin, cellule investigation de Radio France, que l'on retrouve ces informations sur l'application et le site de Radio France. Là aussi, les questions de la santé des jeunes. L'Angleterre va prochainement interdire la vente des boissons énergisantes type Red Bull aux moins de 16 ans. Il faut dire qu'un tiers des ados anglais âgés de 13 à 16 ans en consomment. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Gaëlle, les enseignants anglais eux-mêmes s'inquiètent.
Eh oui, car certaines de ces boissons très populaires en Angleterre contiennent à elles seules l'équivalent de 3 ou 4 expressos et de 20 cuillères à café de sucre. Résultat, les élèves n'arrivent plus à rester assis sur leur chaise, racontent les professeurs, à se concentrer en classe. Certains rebondissent même sur les murs pendant les heures de cours après en avoir consommé sur le chemin de l'école. Ils ont des troubles du sommeil. Alors, les syndicats d'enseignants ont salué cette interdiction ce matin. Dans une étude menée l'an dernier, 70% des profs se disaient inquiètes de l'abus de ces boissons par leurs élèves. Des boissons qui favorisent aussi l'obésité et les caries, dénoncent les médecins et les dentistes. Ce matin, sur la BBC, le gouvernement a promis une loi au plus vite. Écoutez, le ministre de la Santé, Wes Streeting.
On peut voir l'impact sur la santé, la concentration et l'apprentissage. Et c'est pourquoi nous agissons. Nous avons promis de voter cette loi d'ici la fin de notre mandat. Mais en pratique, cela interviendra beaucoup plus tôt.
Il vient de lancer une consultation de 12 semaines pour tenter de s'entendre avec les entreprises et les magasins. L'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles envisagent aussi cette interdiction.
Gaëlle Joly en direct de Londres pour Inter. Nous vous en parlions hier dans ce 13-14. Le suicide de cette directrice d'école dans un village du Cantal, c'était lundi, harcelée depuis des mois par un corbeau en raison de son homosexualité. Des tags injurieux avaient même été peints sur les murs de son école. Cette enseignante avait déposé plainte, elle était en arrêt de travail. Le ministère de l'Éducation nationale lui avait proposé de changer d'école. Il a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête administrative. Il se trouve que l'histoire de cette enseignante, Caroline Grandjean, a été racontée dans une bande dessinée parue au printemps dernier et qui s'intitule « Cas d'école ». Bonjour Christophe Tardieu.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, vous êtes aussi auteur de bande dessinée. C'est vous qui avez signé ce livre. Vous étiez aussi l'ami de Caroline Grandjean. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'elle a vécu, ce que vous décrivez dans ce livre ?
Alors dans l'histoire de Caroline, je décris son parcours à l'école où elle est alors directrice et enseignante et où elle a subi de la part d'un corbeau, comme vous l'avez dit, plusieurs tags homophobes et également des menaces de mort dans la boîte aux lettres de l'école qui lui sont destinées en raison de son orientation sexuelle. Elle me décrit surtout avec ça l'absence de soutien de sa hiérarchie, le fait qu'elle se sente seule et la difficulté de reprendre pied après ces événements.
Comment elle a vécu ces tags, la découverte de ces mots, de ces insultes ?
Alors ça l'a énormément blessée, évidemment, mais dans un premier temps, au tout début, elle avait une certaine confiance justement dans l'enquête et puis dans la réaction de sa hiérarchie par rapport à ça. Elle est au début très peu intervenue. L'affaire n'a pas été tout de suite médiatisée parce que voilà, elle avait confiance. Et puis c'est petit à petit que ça l'a fortement affectée.
Quelle a été la réaction dans le village ? Est-ce qu'elle a été soutenue par les habitants, par les parents d'élèves ?
Alors selon elle, elle n'a reçu strictement aucun soutien. Les soutiens de façade de la mairie ou de l'inspection de circonscription n'ont pas suffi pour elle à lui faire remonter la pente. Et elle avait plutôt le sentiment que son affaire gênait et que la municipalité communiquait sur le fait que ça donnait une mauvaise image du village. Donc elle se sentait vraiment très très seule.
Seule aussi, et c'est ce que vous décrivez dans le livre et c'est ce qu'elle vous raconte, face à la réaction de l'éducation nationale. C'est-à-dire, vous dites, elle a été lâchée.
Oui, elle a été plus que lâchée, elle a été pointée du doigt, elle a été, on a tout fait pour qu'elle se sente coupable de quelque chose. Donc on a commencé effectivement par essayer de la déplacer de force, elle a dû se battre effectivement, et c'est là qu'il y a eu une médiatisation. Elle ne voulait pas en tant que victime être déplacée. Et puis elle a eu des remarques désobligeantes de son inspection.
Par exemple
Par exemple, on lui a demandé très clairement ce qu'elle avait pu faire pour qu'un corbeau s'en prenne à elle, comme si elle était responsable de quelque chose. Mmh. Derrière ça, effectivement, elle a sombré en dépression, elle a pris un traitement médicamenteux, elle a été hospitalisée, et à la suite de ça, elle a demandé, comme c'était son droit, à avoir un dossier RQTH, c'est-à-dire pour avoir des facilités justement pour se soigner. Ça lui a été refusé par l'éducation nationale. Mmh. Et ça a été une grande claque pour elle.
Christophe Tardieu, le ministère explique que des mesures d'accompagnement avaient été mises en place, l'octroi de la protection fonctionnelle, un signalement au procureur et l'activation de dispositifs de soutien.
Oui, mais ça, forcément, il va y avoir beaucoup de communication de la part d'éducation nationale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand la bande dessinée est parue, parce que justement... À la demande de Caroline, j'avais fait cette bande dessinée parce qu'elle sentait que l'affaire n'avançait pas. La seule réaction de l'éducation nationale, ça a été de porter plainte contre la bande dessinée. Donc ça vous montre le degré d'implication de l'éducation nationale dans cette affaire. Ils ont tout fait pour écraser Caroline et malheureusement, ils ont réussi.
Vous aviez pu échanger avec elle ces derniers jours ?
Oui. Oui, on avait parlé vendredi et samedi.
Et rien ne laissait présager l'issue du début de semaine dans ces mots. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit ?
Elle était très fragile, encore une fois. Et puis, elle venait d'apprendre que l'inspectrice de circonscription qui était en cause dans son affaire venait d'être promue en tant qu'assistante de la directrice académique. Mmh. Ça lui avait mis un dernier coup très violent. Et même si elle ne le laissait pas paraître, parce que moi, je n'ai rien vu du tout, je ne m'en suis pas douté une seconde. Mmh. Elle est en grande souffrance à ce moment-là.
Merci Christophe Tardieu pour votre témoignage dans ce 13-14 après la disparition de cette directrice d'école dans ce village du Cantal, Caroline Grandjean. Cette histoire, vous la racontez donc dans cette bande dessinée. Cas d'école, c'est aux éditions des Équateurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que va-t-il se passer le 10 septembre prochain, mardi prochain? Quelle sera l'ampleur de la mobilisation Bloquons tout, lancée sur les réseaux sociaux au printemps et qui donne lieu depuis quelques semaines à des réunions de préparation un peu partout dans le pays. La police, en l'occurrence, les renseignements tentent de le savoir. David Di Giacomo, vous avez pu consulter la note qu'ils viennent de rédiger.
Oui, les projets les plus souvent évoqués d'après les services de renseignement, ce sont des blocages de dépôts pétroliers, d'aéroports, de routes, de facultés, voire même de plateformes Amazon. Des actions portée par la mouvance d'ultra-gauche, selon cette note confidentielle. Ce mouvement du 10 septembre, écrivent les policiers, a clairement basculé vers l'extrême-gauche. Plus d'une centaine de réunions de préparation ont été recensées ces derniers jours à travers une soixantaine de départements, à la fois dans des grandes villes et des petits villages. En Bretagne, par exemple, 2500 personnes se sont mobilisées le week-end dernier pour réfléchir aux actions à mener. Toutefois, des incertitudes demeurent sur le degré d'implication de la société civile dans ce mouvement, constate le renseignement territorial. Un mouvement, je cite, « sans leader et sans organisation structurelle efficace », ce qui rend les actions à venir imprévisibles. Les salariés, par exemple, semblent privilégier pour l'instant la journée de mobilisation intersyndicale du 18 septembre, notamment selon les services de renseignement, parce qu'ils craignent des actions violentes mercredi prochain.
David Di Giacomo, à l'étranger, la Chine a réussi sa démonstration de force ce matin. Un défilé militaire pour les 80 ans de la victoire sur le Japon. Place Tiananmen, en tribune officielle aux côtés du chinois Xi Jinping, les leaders russes et nord-coréens Vladimir Poutine et Kim Jong-un, et devant eux des spectateurs triés sur le volet. Sur place, Sébastien Berriot.
Lorsque le président Xi Jinping apparaît au balcon de la cité interdite, aux côtés de Vladimir Poutine et Kim Jong-un, les gradins changent subitement de couleur et virent au rouge, couleur du drapeau chinois agité par des milliers de spectateurs. La propagande fonctionne à plein régime. Cette Chinoise est venue pour saluer la mémoire de l'un de ses parents qui a participé à la guerre.
La Chine est désormais une force de paix dans le monde, avec la capacité de protéger non seulement le peuple chinois, mais aussi d'autres peuples. J'étais très impatiente de voir les armes présentées au défilé qui contribueront à la paix mondiale.
Le régime étale sa puissance militaire. On voit les avions furtifs, les drones sous-marins ou encore les dernières versions des missiles balistiques intercontinentaux. Pas vraiment de quoi parler de paix, mais il y a beaucoup d'excitation à l'image de cette fonctionnaire.
C'est un immense honneur pour moi d'être ici en tant que citoyenne de base et j'en suis absolument ravie, même si je n'ai presque pas dormi. Mais je suis tellement excitée que je ne suis pas fatiguée.
Un discours pas forcément très étonnant. Beaucoup de spectateurs ont été invités en tant que membres du Parti communiste.
Sébastien Berriot, notre correspondant à Pékin, comment la Chine communiste réécrit l'histoire de sa libération? Je vous conseille la chronique géopolitique de Pierre Aski, c'était ce matin dans la grande matinale d'Inter. En Afghanistan, c'est une course contre la montre pour retrouver des survivants 3 jours après le séisme qui a touché l'est du pays, région de Jalalabad. Au moins 1400 morts. Les vallées touchées sont très isolées, mais la solidarité est là, comme nous l'explique le représentant à Kaboul, la capitale afghane, de l'UNICEF, Salam Al-Janabi. Ses équipes viennent d'arriver sur place.
À certains endroits, parce que les routes sont totalement bloquées et inaccessibles, nos équipes ont été obligées de laisser les voitures, de marcher 2 heures pour rejoindre la localité de Raziabad. Sur leur chemin, mes collègues ont vu beaucoup de villages avec des ensembles de maisons entièrement détruits. C'est choquant à quel point tout est absolument silencieux. Soit les habitants sont partis, soit les gens sont dans un tel état de choc que personne ne parle. Mais dans le même temps, ce qui est positif, c'est que des centaines d'Afghans des villages qui n'ont pas été touchés viennent dans les zones sinistrées pour aider à déblayer et à sortir les gens des décombres. Car il y a encore des gens coincés sous les ruines des maisons détruites. Alors les opérations de sauvetage se poursuivent pendant que l'UNICEF et d'autres associations apportent de l'aide médicale et ce dont les habitants ont besoin.
Le représentant de l'UNICEF à Kaboul au téléphone de Faustine Calmel, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Et les conseils d'Alexis de Meyer. Bonjour Alexis.
Bonjour.
On commence par votre coup de cœur. Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne.
Oui, c'est un très précieux instantané de la jeunesse israélo-palestinienne que nous offre le réalisateur Skandar Kopti. L'intrigue se déroule dans une famille palestinienne de la ville côtière d'Haïfa au nord d'Israël. Comme des courts-métrages qui se répondraient, les chapitres du film se concentrent tour à tour sur chaque membre de cette famille au bord de la crise de nerfs. Avec précision et délicatesse, Skandar Kopti construit ainsi une histoire complexe qui évoque aussi bien la question du patriarcat que celle du vivre ensemble. Et attention, mini spoiler alerte, le vivre ensemble n'est pas vraiment un long fleuve tranquille actuellement au Proche-Orient. Chronique d'Haïfa a le grand mérite de l'illustrer avec talent et inspiration, faisant du film l'une des bonnes surprises de cette rencontre. Entrée cinéma.
Là aussi, c'est un film dans l'actualité du moment, la comédie politique Fils d'eux.
Lionel Perrin, le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre.
On n'est pas très proche avec mon père. Hein.
Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi.
Une crise politique secoue la France. Le président doit nommer d'urgence un nouveau Premier ministre.
Tiens donc.
Toute ressemblance avec l'actualité serait purement
fortuite. Vous avez
fortuite.
Des noms peut-être.
Mais disons que la sortie en salle de Fils d'eux tombe quand même à point nommé.
Ah oui.
Alors avouons-le, Jérôme, cette satire du monde politico-médiatique avec François Cluzet et Karine Viard n'est pas dénuée de défauts. Les blagues tombent parfois à plat, les rebonds sont quelquefois un peu gros, mais l'énergie qui se dégage de Fils d'eux est communicative et devrait séduire les nombreux amateurs de la série Parlement.
En revanche, le thriller franco-japonais La Voix du Serpent ne vous a pas du tout convaincu.
Le grand cinéaste Kiyoshi Kurosawa réalise ici le remake d'un de ses propres films, sorti en 1998. Il transpose l'intrigue en France autour du personnage d'Albert, un homme qui cherche à se faire justice soi-même après le meurtre de sa fille.
Marie Bacheret, retrouvée morte près d'Étiole en forêt de Sénart.
On a comptabilisé 16 coups de couteau sur l'ensemble du corps.
C'est ma fille. que vous avez tué.
Albert est incarné par Damien Bonnard. On retrouve aussi au générique Mathieu Amalric, Grégoire Collin et Vima Lapons. Problème, la justesse de l'interprétation n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est sans doute tout simplement lié à la barrière de la langue entre le metteur en scène et ses acteurs. On avait connu ça aussi dans Inglourious Basterds de Tarantino. Mais ça fragilise totalement le projet. D'autant que cette histoire de vengeance d'un citoyen lambda contre une puissante société secrète sentait déjà un peu le réchauffer.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Exit 8, un film d'horreur japonais adapté d'un jeu vidéo, La Casa, un documentaire sur une école de mode domiciliée à Montreuil en Seine-Saint-Denis, et Adieu Jean Pat, une comédie française avec Hakim Jemili en tête d'affiche.
Et moi je dis adieu Alexis, en tout cas je vous dis à mercredi prochain pour d'autres conseils cinéma. Pour poursuivre ce 13-14, je vous propose un petit tour en forêt. Il s'agit de mesurer sur nos arbres et sur leurs feuilles l'effet des fortes chaleurs de l'été conjuguées au manque d'eau. On a l'impression, en se promenant dans beaucoup de nos forêts en ce moment, que c'est déjà l'automne. Illustration dans la plus vaste forêt de Vendée, le domaine de Mervan avec Yves-René Tapon.
On s'enfonce dans la forêt, énormément de chênes ici à Mervan, beaucoup d'arbres avec des feuilles marron, jaunies. Très très en avance.
Donc là on est à peu près dans le centre de la forêt, on est dans la parcelle 63C qui est une jeune futaie sur souche de chêne Cécile. Donc Nicolas Caillé, je suis technicien forestier à l'Office National des Forêts de Mervan.
Alors ils sont comment les chênes là ?
Alors là ils sont plutôt dépérissants. Alors on voit bien qu'on est orienté plutôt sud, des arbres qui ont déjà pris leur teinte d'automne, ce qui est à cette époque, pas habituel du tout. Au printemps prochain, on verra les arbres qui repartiront ou qui seront morts.
Et vous faites de la peine, vous qui vivez tous les jours, qui travaillez avec la forêt, qui vivez avec elle, de voir ça.
Alors pour un forestier, quand il y a des phases de dépérissement, c'est toujours très dur à vivre. Christophe Rollier, responsable d'unité territoriale pour la Vendée. Mais c'est pas forcément signe que l'arbre va dépérir. Il a quand même une certaine résilience.
Ça a des conséquences dans la gestion de la forêt ?
Alors ça a des conséquences. Bah, dans le contexte du changement climatique, on a des modèles de prévision maintenant, de prédiction, qui nous disent que, par exemple, dans 50 ans, sur certains terrains, le chêne Cécile ne sera plus adapté. Et peut-être choisir une autre espèce qui sont expérimentées pour savoir comment se comportent dans nos terrains ces essences-là.
Reportage Yves-René Tapon, ici Loire-Océan, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, précisément la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, passion musculation, passion fonte, passion salle de sport. De plus en plus de nos jeunes poussent la porte de ces établissements qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux dans notre pays. Il est question de corps, mais il est aussi question de psychologie, de mental. Pour quelles raisons notre jeunesse se passionne-t-elle pour cette activité ? Et c'est la période évidemment des abonnements 01 45 24 7000 si c'est votre cas ou celui de membres de votre famille. 13h45, notre feuilleton avec les sinistrés de la rue de la Rousselle à Bordeaux, 4 ans après l'effondrement des immeubles. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous nous parlez du Panthéon.
Eh oui Jérôme, je vous parlerai précisément du H majuscule ou du H minuscule et ceci n'est pas un détail quand on parle de l'homme.
La devise du Panthéon doit-elle être réécrite comme suggéré par Elisabeth Borne. Et avec vous, Frédéric, un musicien.
Un jazzman, Robinson Coury, compositeur, chanteur, tromboniste, en lice pour le prix du concert de l'année aux Victoires du Jazz qui auront lieu ce soir. Et avec lui, c'est une chanson de Nick Drake que nous écouterons, Riverman, une ballade folk magnifique.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Et salut les matelots! Alors comme ça, c'est la rentrée et on me dit que vous vous posez encore plein de questions.
20h05, Camille Cronier.
À quoi servent les mathématiques?
Ok les petits curieux, pas de problème parce que dans les petits bateaux, on a toujours plein de gens et même des savants pour vous répondre.
Vérifier les informations, c'est un super pouvoir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Les petits bateaux.
C'est tous les soirs sur France Inter après les infos de 20h. Et au fait, bonne rentrée.
Ça, c'est le bruit d'une vie un peu trop animée. Deviens membre maintenant, profite de 6 semaines offertes et reçois un sac de sport. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur. Promotion valable du 25 août au 9 octobre 2025 inclus pour une nouvelle inscription à un abonnement annuel confort, premium ou ultimate. Durée de 6 plus 52 semaines.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo.
torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps perturbé du nord-ouest au nord de la Seine.
Oui, on a une nouvelle perturbation qui circule en effet du nord-ouest jusqu'au bassin parisien et au nord de la Seine, poussée par un vent de sud-ouest jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Les pluies peuvent être copieuses localement avec de l'orage et de fortes rafales. Quelques éclaircies vont quand même revenir sur l'ouest de la Bretagne. Sur le nord-est, des éclaircies se dessinent, plus franches sur la Franche-Comté et l'Alsace. En allant vers le sud, là le soleil brille largement. Alors il devient un peu plus contesté cet après-midi du littoral aquitain au Limousin avec des nuages élevés et les températures sont en hausse. Encore un peu juste sur le nord-ouest jusqu'au nord de la Seine, hein, sous les pluies, 19 à 24 degrés. Mais c'est doux ailleurs avec 24 à 29 degrés le plus souvent, jusqu'à 31 même pour le sud-ouest. Demain, un temps agité avec des averses ou des pluies et des orages. Alors attention sur un quart sud-est, hein, les orages seront parfois forts avec des pluies intenses, de la grêle et du vent. Ça ira beaucoup mieux pour la journée de vendredi.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14. Jérôme Cadet.
Le boom de la musculation chez les adolescents, c'est un phénomène en pleine croissance. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à prendre cette épreuve au baccalauréat. L'an dernier, la musculation figurait parmi les trois épreuves les plus choisies au bac par les jeunes. Ils sont 20% des 15-24 ans à pratiquer le fitness ou la musculation, nous dit le Crédoc. Et ces salles de sport, vous les voyez, ouvrent et poussent un peu comme des champignons depuis quelques années dans nos villes. Tout cela nous interroge. Pourquoi revenir vers ces activités qui avaient un peu moins le vent en poupe ces dernières années, quand on ne parlait pas de gonflettes notamment. Elles étaient parfois tournées en dérision. Ça n'est plus le cas. 01 45 24 7000 pour vos témoignages ou pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Je vous présente nos deux invités. Ludivine Maître, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach sportive, vous êtes ancienne sportive de haut niveau en natation synchronisée et vous êtes spécialisée dans le pilates. Est-ce que vous pouvez nous rappeler nous expliquer ce qu'est le pilate.
Le pilate, c'est le nom de cette méthode de renforcement musculaire, des muscles profonds, à la fois du corps aussi et de l'esprit, et oui. Et c'est le nom de son fondateur, c'est Joseph Pilate. Il faut quand même savoir
d'accord,
qu'il y a un
homme
derrière la méthode.
Et, voilà.
Et oui, ça a été créé il y a 100 ans, et au départ, il a réparé beaucoup de corps d'anciens danseurs, d'acteurs, et c'est devenu très populaire dans les années 90, et puis plus récemment en France, quoique, c'est quand même, ça fait un moment. Et aujourd'hui, il y a aussi un engouement pas que pour les salles de muscu, mais aussi pour les salles de pilates.
On va en parler ensemble. En ligne avec nous, Marie-Françoise Galli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante au Centre de recherche en sciences sociales, sportives et corps. C'est à l'Université de Toulouse. Vous avez beaucoup fréquenté les salles de musculation, pas forcément pour pratiquer, encore que je ne sais pas, mais en tous les cas pour vous entretenir avec les jeunes qui s'adonnent à cette passion.
Oui, tout à fait.
Ça a été l'objet de vos études.
Oui, oui, ça a été l'objet de ma thèse, puisque donc je suis docteur. J'ai travaillé sur la fabrique du genre, donc chez les professionnels du fitness et plutôt en milieu rural.
Département des Landes, c'est ça ?
Département des Landes, oui. Et puis aussi, cela m'a amené au Salon mondial du body fitness à Paris plusieurs fois. Donc pour étudier un peu les modèles de genre auxquels essaient de se conformer les jeunes ou sont qui attirent les jeunes finalement.
Vous avez travaillé sur le département des Landes, vous nous disiez région plutôt rurale, mais est-ce que vous diriez que c'est un phénomène qui concerne finalement l'ensemble du pays, toutes les zones, qu'elles soient rurales, urbaines, que ce soit les banlieues ou les centres-villes ?
Oui, bien sûr. On a environ 10 millions d'adeptes de la musculation. On en a beaucoup plus si on parle du fitness de manière plus large, à savoir qu'il y a donc les cours collectifs, à savoir pilates et autres, mais il y a aussi les espaces de musculation et de cardio-training avec des espaces qui sont plutôt féminisés, des espaces qui sont plutôt masculinisés. Et donc, il y a des modalités.
Donc, on sépare les hommes et les femmes, en fait.
Alors, on sépare, c'est aussi une question de représentation avec des activités qui sont dites plus masculines, des activités dites plus féminines.
Ludivine Maître, vous avez constaté cet engouement ?
Alors, cet engouement, évidemment, alors surtout pour Paris, mais je crois que c'est le cas dans toute la France, lié avec l'ouverture en masse de studios. Moi, ce que j'aimerais rappeler...
C'est quoi les studios ?
Les studios de pilates et de yoga. Et dans le pilates comme dans le yoga, avec cette effervescence autour d'une pratique qui est plutôt saine, qui a le mérite de revenir à l'intérieur, de ressentir vraiment les muscles et d'avoir cette forme, en tout cas ce qui est important pour l'adolescence et les jeunes adultes, d'avoir conscience de leur corps. D'avoir de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est important à cet âge-là, où on se construit, il y a des pics de croissance, de ne pas faire n'importe quoi, et d'être accompagné par des professionnels, des gens qui sont formés. Ça, c'est très important.
Que vous êtes étonné de voir de plus en plus de mineurs pousser les portes de salles de musculation ?
Alors, de plus en plus jeunes, oui. Ouais. Mais est-ce que ça doit être quelque chose de négatif ? Pas forcément, je pense, de mon point de vue.
Je ne sais pas, mais en tous les cas, est-ce que ça vous surprend de
voir ?
Oui,
parce qu'avec les réseaux sociaux, on se met en scène, on montre. C'est comme le culte de la performance. Montrer son muscle, se construire une identité à travers ça. L'enjeu, et attention à cette dérive, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est
vous dites dérive ?
Oui, une dérive, parce qu'à un moment, on est dans le toujours plus, on va toujours plus vite, toujours plus loin, et pourquoi on fait ces choses-là ? Est-ce que c'est pour soi, pour son bien-être, ou est-ce qu'il y a beaucoup de raisons esthétiques derrière qui vont pousser jusqu'à « je ne suis pas assez, mon corps n'est pas assez
pas
bien ».
Pas assez quoi ? Pas assez musclé, en
pas
fait ?
Pas assez musclé, pas assez comme si, les abdos, les six-packs, vous voyez, il y a plein de choses comme celles-ci qui peuvent être dérangeantes, enfin... On se compare, en fait, avec les réseaux aussi. Je parle beaucoup de réseaux parce que moi, j'y suis et je vois, je montre ce que j'ai bien envie de montrer. Et pour les jeunes, c'est pareil. Sauf qu'eux n'ont pas le recul suffisant pour se dire, attention, peut-être que c'est pas ça la vraie vie. Et si j'ai pas ce corps, mais c'est pas grave, je vais pas être moins bien qu'une autre personne.
Bah, on sait que l'un des influenceurs français les plus suivis, Thibaut InShape, fait de la musculation et se met en scène dans ses séances de musculation. C'est ce qui lui a valu sa popularité.
Exactement. Après, je dis pas, il faut pas non plus tout rejeter, c'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas d'excès. Ça ne peut pas être des gens qui vous disent de l'extérieur ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, comment vous devez... En fait, aujourd'hui, on nous dicte un peu trop. Ces injonctions au bien-être, à un moment, elles peuvent être délétères. Et je pense que aller dans une salle de sport, bouger, c'est plutôt une super bonne idée. Et une super bonne nouvelle.
Oui, de prime abord, aller faire du sport, c'est plutôt très bon pour, pour la santé et plutôt conseillé, effectivement.
Voilà, à l'heure où on est là en train de dire, oh là là, les réseaux sociaux, ou les écrans, ça nous pousse à être sédentaires, on passe trop de temps en position assise, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est juste que dans l'excès, à un moment, surtout quand c'est pas bien encadré, et que des adolescents se retrouvent à lever de la fonte, mais qu'on leur dit pas, par exemple, que si tu te construis des abdos, il faut aussi que tu renforces aussi ton dos et la sangle abdominale, pour qu'il y ait une forme d'harmonie.
Autrement dit, ça peut pas se faire tout seul.
Non, ça ne peut pas se faire tout seul.
Marie-Françoise Galli, qu'est-ce qu'ils vont chercher, ces jeunes, dans ces salles, dans ces espaces, qu'ils ne trouvent pas dans un club plus traditionnel, dans lequel on va jouer au foot, au tennis, ou que sais-je ?
Oui, ben là, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est en fait comment je me positionne en tant que jeune garçon ou jeune fille du point de vue des normes sociales et des normes corporelles, des normes de genre, en fait. Donc, il y a cette influence des réseaux, comme le dit très justement Ludivine, avec des modèles, des représentations qui sont un peu culturellement idéalisées, mais qui sont aussi, voire un peu fantasmées, parce que finalement, notre corps, il a quand même une valeur, hein, que ce soit sur le marché plus tard professionnel, mais aussi sur le marché sentimental, entre guillemets, le marché du beau gosse ou de la bonne meuf. Donc, il y a quand même c'est un capital, une forme de ressource en fait, qui est mise en scène, et donc il y a un processus d'identification chez les jeunes. Voilà, ils vont aller regarder ces influenceurs, ces influenceuses, et essayer de prendre peut-être pas forcément pour argent comptant, mais essayer de ressembler, quelles sont les normes dominantes finalement dans la société aujourd'hui. Bon, ben voilà, il faut être plutôt musclé pour un garçon, plutôt fine ou avec des formes, mais aussi un peu sèche pour les femmes ou pour les jeunes filles. Voilà, donc il y a tout ce système de représentation qui est très stéréotypé, très sexué finalement.
Il y a quand même quelque chose.
Les jeunes s'identifient.
Il y a quand même quelque chose qui a changé. Moi, je me souviens de mon enfance dans les années 80, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, c'était quand même les modèles masculins de l'époque qui faisaient énormément d'entrées au cinéma. Ils avaient aussi cette musculature-là, et pourtant, on n'avait pas des cohortes de jeunes qui pouvaient aller fréquenter des salles de musculation. Marie-Françoise Galli, il y a quelque chose qui a changé ?
Alors, je pense que ces modèles de masculinité et de féminité, ils évoluent, ils deviennent un peu plus hybrides. On a aussi des jeunes hommes qui s'intéressent davantage à l'esthétisation de soi. On le voit avec la coiffure, l'épilation, la masse musculaire, mais pas comment. Il faut pas que ça soit aussi repoussoir, en fait, l'exubérance de la masse musculaire. Je pense que ça, c'est le mode culturisme à fond, comme Rambo et.
Ouais, c'est ça. On n'est pas là-dedans non plus.
Voilà, on n'est plus là-dedans, c'est plus quelque chose de plus fin, le six-pack, voilà, quelque chose de plus
élaboré.
C'est
quoi le six-pack,
en fait,
pardon ?
C'est les abdos. Les abdos superficiels, voilà.
C'est la tablette de chocolat, c'est ça ?
C'est la tablette de chocolat.
Je suis resté au chocolat, moi.
Voilà, donc on a ça aussi avec des zones musculaires qui sont plus localisées, différenciées en fait pour les hommes et pour les femmes.
Est-ce qu'il y a
le bassin, les fessiers pour les filles, voilà.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension psychologique ? On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes et j'ai lu des témoignages qui vont dans ce sens de jeunes qui se rassurent au fond parce que ça donne une allure aussi, ça donne une apparence, peut-être. Exactement. Ça donne confiance en soi, Marie-Françoise Galli.
Oui, exactement. C'est aussi comment une forme de carapace. On se donne à voir d'une telle manière. Si on ressemble aux autres, on est peut-être un peu plus assuré et confiant que si on est chétif. Il y a beaucoup de complexes à l'adolescence et même pour les jeunes adultes par rapport à leur corps. Donc, il y a une forme aussi où j'essaie en fait entre guillemets de modeler mon corps à ma façon, une façon qui me rassure ou qui me protège peut-être finalement aussi.
Ça veut dire, Ludivine Maître, qu'il faut être vigilant aussi, vous nous le disiez, dans la pratique, dans les usages. Je rappelle qu'il faut avoir au moins 16 ans pour fréquenter une salle de sport.
Oui, alors, effectivement, vigilant et à nous, parents, de faire attention à nos ados. C'est à ce moment-là, c'est un corps qui est un peu en chantier, qui est en travaux, qui n'est pas complètement terminé. On se cherche, on essaye de s'approprier un peu tous ces codes, toutes ces normes. C'est pas évident. Et c'est pour ça que, de mon point de vue maintenant, après être passé par du sport de haut niveau où le no pain, no gain était un peu la norme, ensuite...
Ça veut dire quoi, no pain, no gain ?
Ben, on souffre pour réussir.
Ouais.
Voilà. Et puis ensuite...
Si on souffre pas, on réussit pas.
Exactement. En gros, si j'ai pas de courbatures, si j'ai pas mal... Ça ne sert à rien.
Ça marche pas.
Et c'est dommage parce que, par exemple, dans la discipline du pilate avec les muscles profonds, ils ne produisent pas d'acide lactique, autrement dit, ce qui est responsable des courbatures. Et souvent, quand on n'a pas de courbature, on se dit « Oh, ben, ça veut dire que j'ai rien fait ». Bref, pour en revenir à ce que vous me demandiez, ouais, par rapport à nos jeunes, et, être vigilant, c'est aussi dans notre discours, comment on les éduque. En fait, accepter son corps tel qu'il est, ça commence déjà dès le plus jeune âge. On s'évitera des années de psy plus tard, de pas être forcément dans la norme. Quelle norme, finalement ? Parce que c'est ça aussi, c'est dans le monde dans lequel on évolue, dans cette culture. Il faut essayer de s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut d'abord revenir à l'intérieur. Dans des pratiques un peu de méditation en mouvement, comme le Pilate l'invite, mais d'une façon consciente, contrôlée, mais dans le bon sens du terme. Quand je suis dans mon corps, je suis moins dans ma tête et je suis dans le moment présent. Et à ce moment-là, je suis capable de regarder mon corps autrement que par une carapace ou quelque chose. Non, c'est un corps qui me permet d'être en vie et de sauter, courir, danser et respirer.
Jérôme est en ligne avec nous. 01 45 24 7000. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Montpellier, nous vous écoutons.
Oui, c'est ça. Bonjour. Alors voilà, donc je viens de tomber sur votre émission et je trouvais le sujet très intéressant parce que ma compagne et moi, nous avons deux garçons,
ouais,
qui sont un petit peu passionnés par la discipline qui s'appelle la calisthénie.
C'est quoi ?
Et alors, d'après ce que j'ai compris, hein, j'ai pas tout compris, mais en fait, ce sont des exercices qui sont pratiqués sur des agrès qui sont placés dans la rue.
Mmh.
Et donc, en fait, ça, je crois que c'est des mouvements assez lents, assez mais qui procurent quand même une certaine musculature quand même assez impressionnante, quoi. Et moi, mon garçon, il a 15 ans, le garçon de ma compagne, il a 18 ans. Et en fait, on voit qu'ils font des exercices ensemble, ils sont entre mecs, tout ça. Ils se comparent le nombre de pompes qu'ils ont fait, ouais, ce genre de choses. Et on se demandait, en fait, s'il y avait... Enfin, on avait une petite crainte par rapport au fait qu'on constate une espèce de retour du virilisme, en fait, chez les garçons. Et comme vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont assez sexuées, quoi. Et en fait, voilà, c'était pour savoir.
D'accord.
En fait,
mais est-ce que ça se traduit dans leurs propos, dans leur attitude vis-à-vis des filles ou pas du tout ? C'est juste qu'ils comparent leurs muscles.
Mais non, pas du tout. Ouais, c'est-à-dire, okay, qu'en fait, nous, on a éduqué nos garçons justement, voilà, à contrario de cette mentalité viriliste.
Ouais.
Mais on constate en fait que autour d'eux, ben voilà, il y a quand même ce truc-là. On se retrouve entre mecs. On peut avoir des fois des discours qui sont des stéréotypes de genre par rapport aux filles. Et on s'est demandé en fait s'il y avait aussi un lien entre cette pratique pour des corps musclés et ce retour des valeurs virilistes, quoi.
Merci Jérôme pour cette question, Marie-Françoise Galli. On est en cœur de vos travaux là.
Oui, tout à fait. Oui, effectivement, il y a quand même en fait, toutes ces pratiques de musculation, bon, un peu le lit aussi du retour d'une certaine forme de masculinisme. Donc la virilité, elle est souvent associée au masculin. La puissance, la force, le développement de la masse musculaire, pardon, est souvent associée aux hommes, aux jeunes garçons. Voilà, donc dans un esprit de à la fois de compétition, mais aussi de se hiérarchiser, hein, qui est le plus fort, qui est le plus puissant, qui a le plus de muscles. Et donc, tout ça, comment alimente effectivement ces normes de masculinité un peu dominantes, ces formes de stéréotypes de genre, avec aussi une part de entre-soi, on est entre mecs, c'est pas accessible, c'est pas forcément accessible aux filles, alors qu'en fait, si, ça l'est tout autant. Et ça reste quand même un entre-soi très masculin où, effectivement, il peut y avoir tout un tas de dérives, c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, effectivement, avec beaucoup de réappropriation en fait, de ces pratiques de musculation par des courants à la fois politiques, mais aussi des groupuscules qui sont sur cet axe-là.
Il peut y avoir une dimension politique dans cette pratique. Ludivine Maître, peut faire du sport pour prendre de la masse musculaire. On peut aussi prendre des protéines, prendre des produits. Est-ce que c'est des choses que vous constatez ?
Alors oui, c'est pas toujours négatif encore une fois, parce que prendre du muscle, il faut quand même rappeler que le muscle c'est l'organe de longévité par excellence, et prendre du muscle, en tout cas pour les femmes, à partir d'un certain âge, c'est très conseillé, puisque à partir de 35-40 ans, on a la fonte musculaire, la sarcopénie, ce qui fait que continuer à s'entraîner avec des résistances en pilates, on a cette forme de ressort sur des appareils, des réformeurs, des cadillacs, ou même d'autres accessoires sur les tapis, ça nous permet finalement de construire donc cette masse musculaire et de pouvoir passer cette phase de changement hormonal appelée la ménopause, qui est un bien vilain mot et pourtant qui concernera tout le monde, toutes les femmes en tout cas, et donc de ne pas...
D'accord, mais si j'ai 16 ou 18 ans, est-ce que la consommation de protéines, elle est conseillée ?
Non, d'abord on commence par consommer des protéines normales, dites animales ou végétales, avant de se remplir d'autres... truc un peu plus en poudre. J'ai rien contre, mais quand on sait qu'il y a une certaine dose à avoir tous les jours, parfois ça suffit pas que de la protéine animale ou végétale, il en faut d'autres.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nos auditeurs. Ludivine Maître, coach en pilates à Paris, dont j'ai découvert que le nom venait donc du fondateur de cette méthode. Merci également à Marie-Françoise Galli, doctorante au Cresco à Toulouse, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton consacré cette semaine aux vies effondrées de la rue de la Rousselle à Bordeaux, 4 ans après l'effondrement de 2 immeubles dans cette rue du centre historique bordelais. Aujourd'hui, avec notre reporter Laurélie Carive, c'est Anne-Laure qui nous accueille. Elle habite à 2 numéros des immeubles. Elle a été évacuée. Aujourd'hui, elle est rentrée chez elle, mais le traumatisme est toujours là.
Il s'appelle comment ?
Fien. Oui.
C'est un petit chien.
C'est un petit chien. Fien est là, j'ai compté, 13 ans. Et il a vécu les effondrements. Ça a été un des sauvés du lendemain des effondrements.
Comment ça s'est passé pour vous, cette nuit du 20 au 21 juin 2021 ?
Ben voilà, j'en pleure encore 4 ans après. C'était invraisemblable, quoi. Je pensais pas que cette émotion viendrait, mais parce que j'en parle plus. Ou quand j'en parle en rigolant. Moi, j'étais dans mon salon, fenêtre ouverte, et c'est un bruit indescriptible. Je suis restée tétanisée dans le salon. Et ensuite, je suis sortie sur le balcon. Et j'ai juste vu un nuage énorme de poussière. Et j'entendais juste des gens crier. Laurent n'était pas là. Enfin, mon conjoint n'était pas là. J'étais avec son fils. On est descendus tous les deux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que 2 personnes sont sorties des décombres. Mais en fait, c'était lunaire. Il y avait des gens qui hurlaient, des gens qui pleuraient, des gens qui rigolaient, qui faisaient des vidéos... Et ces gens qui sortent en pyjama, complètement hébétés, nous aussi on était, je pense.
Vous avez dû quitter votre appartement.
Oui.
Au bout de combien de temps vous avez pu revenir ici ?
On est revenu au bout d'un an et demi dans l'appartement. J'ai fait 10 jours et les portes ouvertes, en bas et ici, pour me dire s'il y a quoi que ce soit, le moindre bruit, tu te barres.
Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique ?
Oui. Pendant 3 ans, ouais, complètement. Ben, en fait, j'ai cru que ça allait. Et je me souviens qu'on a fait une réunion avec l'association qui s'est montée, et donc avec la mairie, tout ça. Et en fait, je me suis sentie... La première AG de l'association, je sais pas, c'était peut-être 4 mois après ou 5 mois après. Et ce jour-là, j'avais pour ambition de m'investir dans l'asso. Et le jour de l'AG, face à tous ces gens, je me suis sentie démunie, prise de larmes, enfin vraiment... Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un truc qu'il va falloir travailler, quoi. Enfin, ça va pas. J'y suis allée et la première phrase que j'ai dit dans son cabinet, c'est « J'ai vécu des effondrements et j'ai l'impression que je me suis effondrée avec eux, quoi. » Et voilà, 3 ans. Et j'ai arrêté parce que financièrement, ces histoires nous ont mis sur la paille. Il a fallu, dans un premier temps, dans l'urgence, se reloger. On a acheté 6 mois avant que ça s'effondre. Donc on avait un emprunt. Et après, il a fallu racheter des meubles, des vêtements, des couverts, des verres, des assiettes, tout quoi. Et ensuite s'engage la partie juridique. Les frais judiciaires, c'est un coût. Aujourd'hui, on est à 60 000 euros de dépenses. Et à côté de ça, notre copropriété du 15 a eu 80 000 euros de travaux à faire. Donc on est ruiné. Je dis ça, je devrais peut-être pas le dire avec humour, mais ça m'aide à... voilà. Enfin, ça a tout bouleversé. Hein.
Vous avez eu un bébé depuis ?
Oui. Je suis tombée enceinte au moment où on a pu réintégrer, mais où je voulais pas réintégrer. Et je me souviens avoir une conversation à Laurent, lui dire « Mais tu te rends compte que si demain je suis enceinte, jamais je retourne dans cet appartement parce que cet enfant sera pas en sécurité. » Et 15 jours après, bim, enceinte. C'était pas prévu. La vie suit son cours. C'est ça aussi qui nous permet de vivre les choses puis d'avancer parce que la vie est belle, quoi.
Troisième épisode de ce feuilleton à Bordeaux que vous retrouvez également sur l'application Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Et aujourd'hui, Éric, vous demandez s'il faut féminiser la devise inscrite au fronton du Panthéon à Paris depuis 1791.
Oui, je vous dirais, Jérôme, comment faire d'une bonne question un mauvais débat ? C'est le cas d'école que je pourrais proposer à l'ancienne première ministre, désormais, et peut-être pour plus très longtemps, ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Lors de sa conférence de presse de rentrée, en effet, celle-ci a annoncé sa volonté de déranger, ou plutôt de dégenrer, la fameuse devise du Panthéon aux grands hommes, la patrie reconnaissante, afin de mettre en lumière la place des femmes dans l'histoire et d'encourager les jeunes filles à s'engager notamment dans des parcours scientifiques. Si en levant les yeux, les femmes ne voient pas la société reconnaître pleinement leur place dans son histoire, alors nous leur envoyons un message contradictoire, a ainsi plaidé Madame Borne. Bonne question donc quand on sait que les femmes au Panthéon se sont longtemps comptées sur les doigts d'une seule main. Si on exclut en effet Sophie Berthelot, panthéonisée en 1907 en sa qualité d'épouse d'eux, en l'occurrence du chimiste Marcelin Berthelot, la famille refusait que les époux soient séparés. La liste est courte, très courte, trop courte, des grandes femmes d'exception ainsi honorées.
Mais une fois qu'on vient de faire ce tableau, cher Éric, pourquoi la suggestion d'Elisabeth Borne vous paraît-elle maladroite ?
Vous connaissez le proverbe chinois, Jérôme, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Loin de moi l'idée de traiter la ministre d'idiote, je dirais juste qu'elle se met le doigt dans l'œil. Pour au moins 2 raisons. Si elles sont rares, ce sont des femmes d'exception qui reposent au Panthéon. À commencer par Marie Curie, seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel et dans 2 disciplines scientifiques différentes. Quant à Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Simone Veil ou Joséphine Baker, ou encore Méliné Manouchian, leurs mérites en font des figures marquantes pour les jeunes générations. L'autre raison de ce fourvoiement tient, selon moi, au détournement de sens de l'expression « grands hommes » qui figure au fronton du Panthéon depuis le XVe siècle. Dans ce sanctuaire laïque, le diable est dans les détails. Chacun sait que le H majuscule ne fait pas référence à l'homme, par opposition à la femme, mais à l'homme en tant qu'être humain. Il ne s'agit donc pas de sexe, la majuscule du masculin englobe l'ensemble de l'humanité.
Ouais, enfin, tout ça, c'est facile à dire quand on est un homme, Éric. Oui. Plus difficile à entendre pour une femme.
C'est vrai. Tout dépend où commence le combat légitime des femmes. Est-ce dans ces traces de l'histoire qu'il faudrait effacer ou travestir, ou dans la vie réelle, au présent, où s'accumulent les inégalités entre les deux sexes, qu'il s'agisse des salaires, du déroulé des carrières, de la vie domestique ou de l'accès aux filières éducatives d'excellence. À l'évidence, depuis 2 siècles, le Panthéon devrait accueillir plus de femmes, comme le Nobel devrait couronner plus de femmes. Mais ce n'est pas en tordant le langage de l'écriture dite inclusive aux devises historiques que leur sort en sera amélioré.
Le débat est lancé à la une du 1 Hebdo cette semaine, Éric.
Alors, dans ce climat tendu de la rentrée, entre le vote du 8 septembre et le blocage annoncé du 10, nous nous demandons que faire de nos colères. Je vous recommande, Jérôme, le grand entretien avec la philosophe Sophie Galabru, qui défend avec conviction le droit à la colère, précisant que la colère féminine est longtemps passée pour de la folie, afin de mieux disqualifier les femmes et de les dominer. La colère, nous dit Sophie Galabru, est une émotion à décrypter, à réhabiliter sensibilité. Et quant au politiste Vincent Martini, il écrit pourquoi la colère ne peut en aucun cas être un programme.
Encore du débat donc. Merci Eric Fotorino de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un tromboniste de jazz que vous recevez aujourd'hui. Frédéric Pommier, il s'agit de Robinson Coury.
Robinson Coury, lauréat l'an dernier du prix Django Reinhardt, l'un des plus prestigieux prix de jazz en France. Il est également nommé aux Victoires du Jazz, dont la cérémonie aura lieu ce soir, nommé dans la catégorie meilleur concert de l'année. Robinson Coury sera d'ailleurs en concert le 20 septembre au New Morning, et c'est du titre Riverman qu'il a souhaité parler, une chanson de Nick Drake.
Nick Drake, de son vivant, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'est un chanteur des années 70, un anglais, avec une voix suave et magnifique, et qui a fait 3 albums dans sa courte carrière, et qui n'a même pas atteint le club des 27, puisqu'il est mort à 26 ans. Et donc c'était un chanteur incompris, dépressif, tout ce qui est le plus réjouissant, mais qui a laissé quand même une trace indélébile avec 3 albums magnifiques, et notamment dans le premier déjà un tube Riverman qui a été repris de nombreuses fois. Et donc c'est par cette chanson-là que je l'ai découvert, et voilà, je pense que c'est un incontournable de la folk britannique.
Ce chanteur, vous l'avez découvert à quel moment? Vous aviez quel âge?
Ça devait être à l'adolescence. Et j'étais passionné par les voix, notamment celle de Chet Baker. Et je pense que quand j'ai entendu ce morceau-là, je me suis dit « Ah tiens, il y a quelque chose qui me fait penser à Chet Baker dans ce morceau-là ». Et c'est marrant de se dire qu'il me faisait penser à la voix de Chet Baker, puisque quand on regarde le destin de Chet Baker, il n'est pas non plus réjouissant, malgré quelques instants de lumière trouble. Et je pense que c'est cette fragilité qui rend leur voix si singulière. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes.
C'est en 1969 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Une ballade dans laquelle Robinson Coury perçoit notamment le mal-être de son auteur.
Je pense que tout est en corrélation avec le principe même du questionnement existentiel, en tout cas de la vie, qu'est-ce qui se passe après la vie. Et je pense que ces questions existentielles, elles étaient très fortes chez Nick Drake. Et donc ben, voilà, il s'est suicidé. Mais il y a quand même une pointe d'espoir dans cette chanson, et ça se reflète aussi dans les couleurs musicales et dans la suite harmonique, qui est comme un espèce de cycle. Pour moi, je trouve que c'est un cycle un peu sans fin qui représente le cycle de la vie. Et donc, il parle de Riverman, c'est l'homme de la rivière, le gardien du fleuve, qu'on peut retrouver beaucoup dans la mythologie, le gardien du Styx, la rivière qui mène aux enfers ou au paradis, on ne sait pas trop. D'ailleurs, l'orchestration même de ce morceau est incroyable, puisque, bon, bah, hormis sa guitare et sa voix qui sont magnifiques, il y a aussi un arrangement de cordes derrière qui sublime le morceau, je trouve. Et j'aime beaucoup justement cet arrangement. Et pour le coup, ça, la manière dont il est écrit, ça m'a influencé. When she thought of summer rain, calling for her mind again, she lost the pain.
Vous, quand vous entendez cette chanson-là, est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous imaginez un décor? Est-ce que vous imaginez cet homme de la rivière?
C'est vrai qu'on imagine quelque chose d'assez bucolique, enfin d'assez paysager, quoi. C'est comme s'il y avait un fleuve qui s'arrêtait jamais, quoi, et qu'on marchait le long de ce fleuve et que on rencontrait des gens sur la route et que, en fait, on continue malgré les embûches, malgré que des fois il n'y ait pas de chemin. Le but, c'est de continuer à longer ce fleuve, quoi. Un peu comme le chemin de la vie qui nous questionne sans arrêt sur quel chemin emprunter.
Ça, c'est une question que vous posez régulièrement?
Oui, la question du chemin, oui. Oui, oui, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie et donc je pense que c'est aussi pour ça que cette chanson me parle autant. Ouais. Oh, how they come and go.
Riverman, Nick Drake, c'était donc Frédéric, le choix du jazzman Robinson Coury.
Robinson Coury, dont le prochain concert aura lieu le 20 septembre au New Morning à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan est à suivre.